Non, mais je pense que le son, c'est bien fait, parce que...
Bien sûr, oui.
Bon, bon matin tout le monde.
Bon matin.
On m'entend bien? OK, ça fonctionne le micro. Bon, je vais pouvoir baisser le ton. Je vais laisser Max s'occuper du reste. Je vous invite à tourner avec moi dans 2 Samuel au chapitre 12. 2 Samuel au chapitre 12. Puis ça me fait plaisir d'être là avec toute la famille. On est toujours content de venir vous voir, de voir tout le monde. Chacun d'entre vous, vous vous aimez beaucoup. J'étais content de savoir que ça s'est bien passé à l'île de nous aussi. Pour les gens, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont là. C'est une façon de dire qu'on a fait une conférence famille et on l'a annoncé. C'était bien aussi. On était bien encouragé. 2 Samuel au chapitre 12. Tournez. OK. Donc, on va lire ce texte-là ensemble. Ça fait la dernière fois que je suis venu, qui se souvient de quoi j'ai parlé? Je pourrais répéter le même. 2 Samuel au chapitre 10. Donc, là, on est rendu au chapitre 12 de la dernière fois. On est à 2 Samuel 10. Là, on est rendu à 2 Samuel au chapitre 12. Donc, faisons la lecture. C'est un long texte. Donc, faisons la lecture ensemble. C'est pas très grand, vous êtes vraiment capable de le lire, sinon vous pouvez suivre dans vos bibles. 2 Samuel 12, ça nous dit: l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Il mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sous son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. À Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël de Juda. Et si cela n'avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hessien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme du riz de l'Hessien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel: voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Tu coucheras avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai en présence de tout Israël. Je ferai cela, pardon, en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient: voici, lorsque l'enfant vivait encore, Nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire « l'enfant est mort » et « s'affligera bien davantage » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs « l'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent « il est mort ». Alors David se leva de terre et se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je me disais « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Joab, qui assiégeait Rabat des fils d'Amon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire « J'ai attaqué Rabat et je me suis emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, le camp auprès de la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire m'en soit attribuée. » David rassembla tout le peuple et il marcha sur Rabat et il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Pesait un talent d'or et était garni de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David qui apporta de la ville un très grand bouton. Il fit sortir les habitants et les mit aussi au pic de fer et aux haches de fer. Il les fit travailler au moule à briques et traita de même toutes les villes des fils d'Amon. Et David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Ma prière, c'est que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ça nous donne un bon temps, on est un bon temps dans sa parole ce matin. Comme j'ai mentionné la dernière fois, j'avais parlé de David. En passant, c'est un long texte, donc on va y aller quand même. On ne va pas avoir en détail tous les détails, tous les points, on ne va pas s'attarder à tout. On va évidemment avoir une bonne vue d'ensemble du texte, donc soyez indulgents si il y a un sujet que je ne traite pas autant que vous auriez souhaité, mais vous pouvez venir me voir, ça va me faire plaisir. Donc, la dernière fois que j'ai parlé, c'était dans 2 Samuel au chapitre 10. Là, on est en 2 Samuel au chapitre 12. Quel est le ton de ce texte-là? Est-ce que ça veut dire de positif ou ça veut dire d'assez négatif? C'est assez négatif. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 10? C'était très positif ce qui se passait dans la vie de David. Qu'est-ce qui s'est passé entre le chapitre 10 et le chapitre 12? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans 2 Samuel au chapitre 11? C'est passé une adultère, c'est passé beaucoup de choses d'improchables dans ce texte-là. Ça a débuté par une adultère. David a commis une adultère avec Bathsheba, la femme de Uri le Hétien. Est-ce que ça s'est arrêté là? Non, l'adultère a fait en sorte que la femme était enceinte, Bathsheba est devenue enceinte. David a dit, ben là, il faut que je trouve une façon de cacher ça. Puis ça n'a pas marché, au final, ça a fini en meurtre. Donc, on est passé d'une adultère, on se rend meurtre. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? David a pris Bathsheba pour en faire sa femme, donc pour deux mariages. Puis, il y a eu la naissance d'un enfant. L'enfant qui était né de l'adultère est né. Qui était le fruit de l'adultère, c'est l'homme à sentir est né. Donc, il y a eu toutes ces choses-là qui se sont passées. Puis, le temps a passé entre les actions de David, parce que les enfants, ils prenaient 9 mois pour naître à l'époque aussi. Des fois, on est sûr qu'on pense qu'il n'y a pas de temps qui passe. Mais pour David, il pourrait peut-être se dire, « Moi, j'ai fait des choses que je ne suis pas très fier, mais le temps passe, tout se passe bien, l'enfant est né, je m'en suis sorti. » Est-ce que c'est ça qui arrive? La fin du chapitre 11, le dernier verset, la dernière phrase, le verset 27, la dernière phrase, on dit, « Ce que David avait fait, déplu à l'Éternel. » Donc, David a fait des choses épouvantables, il a fait des choses très déplorables. Et ce que la Bible dit, c'est que l'Éternel a regardé ça, puis ça lui a déplu. Puis
Là, il va laisser passer du temps, mais là, il s'apprête à agir, il s'apprête à parler à Daniel. C'est ce qu'on va voir dans le texte qu'on a ce matin. Le titre de mon message, c'est « Tu es cet homme-là », et dans la déclaration que Nathan fait à David dans le texte qu'on vient de lire. Donc, toutes les divisions sont associées à un homme. C'est pour ça qu'il fait quand même « Un homme mérite la mort, un homme est identifié, un homme avoue son crime, un homme pleure son fils, un homme retrouve la grâce et les applications pour vous et moi en 2025. » Donc, avant d'aller plus loin, prions pour remettre le temps entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, on veut s'approcher de toi avec humilité par rapport à ce texte que tu places devant nous. Seigneur, le but n'est pas de juger David, mais de chercher à travers ce texte-là, de chercher ce que tu veux nous montrer, de montrer sur nous-mêmes, que tu puisses utiliser ce temps dans ta parole pour nous montrer qui tu es, nous montrer ta grâce en même temps, nous montrer ta justice. Donc, on s'approche de toi, on implore ta grâce, on prie de diriger toutes choses, nous montrons ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Donc, premier point, un homme mérite la mort. Donc, le texte commence au verset 1 du chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan, qui est un prophète, qui est envoyé vers le roi David. C'est la deuxième fois que c'est mentionné que Nathan va vers David. Mais la première fois, c'était quand? Est-ce que vous voulez prendre une chance? La deuxième fois, la première fois, c'est au chapitre 7, dans 2 Samuel. Puis, qu'est-ce qu'il lui annonce? C'est quand David veut pour construire un temple pour l'Éternel. Puis là, Nathan va aller annoncer des choses à David. La nuit suivante, là, j'ai mis quelques extraits des versets 4 et 17 de 2 Samuel 7. La nuit suivante, la parole de l'Éternel s'est adressée à Nathan. Le même Nathan va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Puis là, plusieurs choses, entre autres, là, les versets que j'ai mentionnés. L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi et celui qui sera sorti de tes entrailles. Et j'affermirai son règne. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan apporta à David toutes ces paroles et toutes ces visions. Donc, Nathan, il va annoncer des belles promesses pour David. En fait, il va annoncer que de sa descendance va venir le Messie, que le Seigneur Jésus va lui annoncer ces choses-là, que la maison de David, il va avoir un descendant qui va être le Messie. C'est ces choses-là qui vont être mentionnées, puis c'est le descendant aussi, Salomon, qui va construire le temple, qui va lui annoncer toutes ces choses-là. Une annonce très positive. Là, ici, c'est beaucoup moins positif, ça devait moins tenter à Nathan d'aller voir. Puis là, c'est pour y annoncer des choses beaucoup moins belles, beaucoup plus pénibles. Pourtant, Nathan est un bon serviteur, il sert l'Éternel, puis il va lui annoncer des choses. Puis là, il va raconter une histoire, une parabole, c'est probablement pas une histoire vraie. Il va lui raconter une histoire. Il y avait, on ne va pas la regarder au complet, mais il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis, des bœufs en grand nombre, puis le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite. Qui raconte une histoire qui parle de moutons, de brebis, de troupeaux. David, c'était quoi sa profession avant? Berger, donc ça devait lui parler particulièrement un domaine qu'il connaît, le domaine de moutons, de berger, donc un domaine qu'il connaît, et évidemment, toute l'histoire parle moins que de l'abondance, une personne qui est riche qui a de l'abondance, l'autre homme, il y a un mouton, une brebis, il l'aime tellement qu'il s'en occupe comme si c'était sa propre fille. Il en prend soin, il a fait vivre dans sa maison. Il a une relation particulière avec cette brebis-là. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que le riche, il y a un invité qui vient, il dit on va pas gaspiller des moutons pour cet invité-là. On va aller piger chez le voisin, on va prendre sa brebis et on va la prêter. C'est évidemment, quand on écoute une histoire de même, bien gros, c'est bien égoïste, c'est bien un acte qui est différent. Donc, il va raconter cette histoire-là. Il prend la brebis du pauvre, il n'a aucun égard pour le pauvre comme riche, puis il se l'approprie et il l'utilise. Donc, il va commettre dans cette histoire-là, ce riche-là va commettre des choses terribles avec cette brebis-là. Qu'est-ce que David, comment David réagit quand il entend cette histoire-là? Oui, il est en colère. Il mentionne, verset 5, la colère de David s'enflamma violemment. Donc David entend ça, il dit, ça va d'allure. Il est fâché, il dit, ça n'a pas de sens, une chose de même, ce qui arrive. Fait que là, il va mentionner en tant que roi, il va mentionner un ordre, un jugement envers cet homme-là qui a commis ces choses-là. Fait que là, ils vont faire un jugement, puis ils vont le faire. Pourquoi c'est intéressant? Sa colère est enflammée, puis il dit, l'Éternel est vivant. Ça, c'est quand il parle de même, c'est une façon de dire, je parle au nom de l'Éternel, je veux que la justice soit faite au nom de l'Éternel. C'est une façon de s'exprimer. Donc, il mentionne l'Éternel est vivant, puis il mentionne l'homme qui, enfin, il mentionne le jour, puis il dit, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il va loin. Et il dit, là, cet homme-là, là, selon mes standards à moi, là, en tant que roi, cet homme-là mérite de mourir. Lui aussi, il mérite de rendre quatre brebis pour avoir commis cette action et avoir été sans pitié. Donc, cet homme-là a été sans pitié, il a été égoïste. Il mérite de rendre quatre brebis. Il mérite de donner la mort. Pour les quatre brebis, c'est basé dans les textes de la loi. Dans Exode 22, verset 1, ça dit « Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, ce qui est arrivé dans l'histoire, et qu'il l'égorge ou le vend, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau. » Donc, David connaît sa loi. Il connaît sa loi. Il dit, cet homme-là doit rendre quatre brebis. Parce qu'il doit rendre quatre pour un, parce que c'est ce qu'il a fait. Puis au niveau de mériter la mort, David, il va même plus loin. Il y a des textes qu'on pourrait dire qu'il s'appuyait sur tel article, la loi, la loi mosaïque qui pourrait se baser. Puis il pousse à l'extrême. Donc, les standards de David sont très élevés. C'est facile. David l'accuse, cet homme-là. Mérite la mort. Donc, les standards de David, ça n'a pas de sens, cet homme-là mérite de mourir. Donc, David établit un standard par rapport à cette action-là qui a été commise. Cet homme-là, c'est une parabole. Cet homme-là, on ne sait pas c'est qui. On arrive avec le deuxième point, puisque Nathan va révéler à David qui est cet homme-là. Et c'est qui? C'est lui. Il dit, tu es cet homme-là. C'est pas, je pointe quelqu'un, facile, c'est toi. Le problème, c'est toi. Tu es cet homme-là. Donc, cet homme-là qui mérite la mort, cet homme-là qui a été sans pitié, cet homme-là que tu as condamné, c'est toi, cet homme-là. C'est toi qui mérite ça. Fait que Nathan met un peu David face à son péché. Il va lui dire, ainsi parle l'Éternel. David avait dit, l'Éternel est vivant. Il parlait selon l'Éternel. Il dit, là, Nathan dit, moi je parle au nom de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel va te dire ce qu'il y en est. L'Éternel va. Et qu'est-ce qu'il lui dit? En fait, là, on va parler dans le détail de tout ce qu'il a fait. Il dit, je t'ai oint roi pour roi sur Israël. Je t'ai délivré. C'est intéressant. L'Éternel va dire tout ce qu'il fait pour David. Je t'ai oint roi, je t'ai placé ça, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, je t'ai donné la maison d'Israël, et Juda. D'une façon de dire, l'Éternel par la David dit, je t'ai tellement donné. Je t'ai tellement donné la ville, je t'ai donné au-delà de n'importe qui. J'ai été généreux avec toi, je t'ai donné énormément. Puis si c'était pas assez, j'en aurais donné encore. C'est une manière de dire à David, j'ai abondé de grâce envers toi, de bonté envers toi. Puis toi, qu'est-ce que tu fais en retour pour toutes les choses que je t'ai données? Qu'est-ce que tu fais? Le verset 9, c'est parce que ça m'a travaillé beaucoup quand j'ai lu. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Tu as méprisé la parole de l'Éternel. J'ai fait beaucoup de choses envers toi, puis toi, tu as méprisé ma parole. Puis un peu plus loin, il va mentionner parce que tu m'as méprisé. Donc, David, au lieu d'être reconnaissant des grâces qu'il a reçues, il a du mépris pour la parole éternelle, les lois, les commandements de l'Éternel, il a du mépris pour l'Éternel lui-même. C'est terrible quand on pense à ça. Puis, quand on pense au mépris qu'il peut avoir, j'ai sorti quelques versets dans l'Ancien Testament où les gens ont du mépris. Dans Genèse 25, le verset 34, c'est quand Ésaü va vendre le droit d'aînesse à Jacob. Il dit, alors Jacob donna à Ésaü du pain, du potage de lentilles, il mangea et but. Et puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc Ésaü, le droit d'aînesse, c'est un grand privilège qu'il avait. Et moi, je ne même pas du tout, d'une certaine façon. C'est un peu l'action qu'il fait. Dans 1 Samuel 17, verset 42, le Philistin et Goliath, avec quelqu'un fond David, il va regarder David qui est un enfant. Goliath est un homme de guerre. Il aperçut David et le méprisa. Ça n'a pas de valeur, c'est rien. C'est pas important de voir en lui qu'un enfant blond et de belles figures. Fait, il le regarde avec mépris, donc il le regarde de haut. C'est un peu la façon qu'il regarde, puisque David se fait dire par Nathan, c'est que l'Éternel lui dit, tu m'as regardé de haut, tu m'as méprisé, tu m'as regardé comme si j'avais aucune valeur. C'est ce que David a fait en commettant ce péché-là. Et maintenant, il va avoir des conséquences. Ça dit maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme du riz laïcien pour en faire ta femme. Puis là, il va donner différentes conséquences. Il dit, ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir le malheur de ta maison, le malheur contre toi. Donc, sur sa maison, il va avoir l'épée, il va avoir le malheur, il va avoir beaucoup de. Ça va devenir très difficile dans la maison de David. À partir de ce texte-là, on n'aura pas le temps d'aller trop en détail, mais d'une façon très humilatante, dire à David, à partir de maintenant, ça ne sera plus beau, ça va brasser, ça va être difficile dans ta maison, ça va être très pénible. Puis on le voit tout de suite au chapitre 13, verset 1, 2 Samuel 13, sinon on va voir les accomplissements de ça. Puis David va finir par perdre quatre enfants. Il y a quatre enfants de David qui vont décéder, l'enfant de Bathsheba, puis il y a trois autres enfants qui vont décéder à partir de ce texte-là. Le chapitre 13, verset 1, c'est dit, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amon, fils de David, l'aima. Déjà là, juste avec ce texte-là, Absalom, Tamar, Amon va déshonorer Tamar, Absalom va tuer Amon. Absalom va finir par mourir, va finir par faire des choses terribles. Donc, on voit tout de suite après l'accomplissement de ces paroles-là, donc on va commencer à arriver de ce que Nathan a annoncé. Le malheur, l'épée va arriver sur la maison de David à cause de ce qu'il a fait. Troisième point, un homme avoue son crime. Donc, David entend cette déclaration-là de Nathan, l'entend Nathan qui parle, c'est quelle est sa réaction, est-ce qu'il s'oppose à Nathan, est-ce qu'il est fâché envers Nathan, quelle est sa réaction, qu'est-ce qu'il dit? Ça dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. C'est court, c'est très court comme réponse. On va regarder des versets parallèles dans les psaumes 32 et psaumes 51. Mais ici, tout ce qu'il dit, c'est que j'ai péché contre l'Éternel. De toute façon, vous voyez, je suis coupable. David n'essaie pas de se justifier, il n'essaie pas de dire, ben là, c'est de la faute à Bathsheba, elle m'a provoqué. C'est de la faute à Uri où j'étais fatigué, j'étais pas de bout. Il n'essaie pas de trouver des excuses, il n'essaie pas de trouver si je suis coupable. C'est très différent de l'autre roi, le roi précédent, quand il avait désobéi contre l'Éternel, Saül, quand il a désobéi dans Samuel 15, il va désobéir, puis il va parler à Samuel à ce moment-là. On voit ici Samuel 15, verset 24 et 25, ça dit « Alors, Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple. » Donc il va être excusé, j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi. Il veut se restaurer. Il demande à Samuel de faire quelque chose. Dans Samuel 15, verset 30, ça dit, Samuel dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi. C'est intéressant. Il dit, David, Samuel dit, j'ai péché, honore-moi. J'ai besoin que tu m'honores, j'ai besoin que tu me mettes en valeur, même si j'ai péché. Et David, qu'est-ce qu'il dit? Lui, j'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché, je suis coupable. J'ai péché, je suis coupable, il n'y a rien que je peux faire, il n'y a rien, je ne suis pas en position pour demander quoi que ce soit, je reconnais qu'est-ce que j'ai fait. Le psaume 51, verset 3 à 4, ça dit que je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Donc, David reconnaît son péché. Ce texte-là, psaume 51, ça doit être écrit dans ce contexte-là. du péché de David.
J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Donc, David reconnaît qu'il est coupable, reconnaît qu'il a péché, reconnaît qu'il mérite un jugement, puis il demande absolument rien, il reconnaît sa culpabilité devant Dieu, devant l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Tout de suite, quand David reconnaît, évidemment, il a un cœur repentant, il reconnaît qu'il n'aurait pas dû agir de cette façon-là, est-ce que l'Éternel lui dit, est-ce que Nathan est bon, David, ben là, tu as l'air regretté, on va attendre de voir si tu regrettes, si tu fais du bien, si tu es mieux, on va peut-être te pardonner. Est-ce que c'est ça qui arrive? Pas du tout. Immédiatement, dès que David reconnaît son péché, reconnaît qu'il est coupable, un cœur repentant, immédiatement, le texte nous dit, Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. David aurait dû mourir. Aurait dû mourir pour le péché qu'il avait commis. Il y avait plusieurs. L'adultère avait entraîné la mort, le meurtre avait entraîné la mort. Il y a plusieurs raisons de mourir. Puis l'Éternel pardonne son péché, il ne meurt pas. Mais le péché est pardonné tout de suite, instantanément. Psaume 32, verset 5, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Donc, immédiatement, dès que David est repentant, il reçoit le pardon de l'Éternel. Ceci dit, il y a des conséquences pour la vie de David à partir de ce moment-là. Nathan continue, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. J'en ai qu'à ça, mentionne par rapport à ça, le pardon divin. Donc, David reçoit le pardon divin du péché qu'il a connu, comme il supprime les conséquences du péché pour la vie à venir. Donc, il continue d'avoir la vie éternelle. Mais pas nécessairement pour la vie ici-bas. Il a fait des erreurs, il a commis des péchés, puis il doit assumer les conséquences de ses péchés, puis ce fils-là doit mourir, parce que les ennemis de l'Éternel ont blasphémé son nom à cause de ça. On va tomber au point suivant. Un homme pleure son fils, donc David va pleurer son fils à partir de ce moment-là. Le verset 15 dit, Nathan s'en alla dans sa maison, donc Nathan s'en va. L'Éternel frappa l'enfant que la femme de lui avait enfanté à David et fut dangereusement malade. Donc Nathan s'en va, puis presque exclusivement cet enfant-là, on ne sait pas l'âge exactement. On a encore un jeune bébé, puis il tombe gravement malade. Il est dangereusement malade. Donc, ça devait être terrible pour David. Imaginez-vous que tu as un fils, puis ce fils-là, il souffre. Ce fils-là est dangereusement malade. Nathan a dit, ce fils-là va mourir à cause de cet enfant-là est coupable. On s'entend, il n'y a rien fait. Là. Cet enfant-là mérite rien. À cause de David, à cause de ce qu'il fait, ce fils-là va mourir. Ça devait être terrible pour le roi David, à cause de son péché, ce fils-là souffrir de cette façon-là. Puis on voit David, sa réaction, il va prier Dieu pour l'enfant, il va jeûner. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Et les gens, les anciens insistent pour qu'il mange, il ne veut pas manger, il reste par terre, il ne veut pas manger pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours de temps, il est en bien voir l'Éternel, bien voir la grâce de Dieu sur cet enfant-là, il devait être misérable, 7 jours sans manger, sans par terre, sans se laver, sans se raser, il devait être pas très beau à voir, mais bien voir, il y avait espoir que Dieu change les choses pour cet enfant-là. Puis, au point que les gens de la maison de David sont comme là, imagine, quand ils voient que l'enfant va mourir finalement, au 16 jours, ils veulent dire, on va l'acheter. Il triste, il est en deuil, il n'est pas consolable, il n'y a rien qu'on peut faire, on va lui dire que l'enfant est mort, on va l'acheter. C'est ça qui va arriver, les gens de la maison, on va pas lui dire, on va attendre qu'il se console un peu, on va attendre. Puis là, David s'en rend compte. Puis il va demander l'enfant. David, le verset 19, aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas en dessous et compris que l'enfant était mort. Il disait à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et on disait, il est mort. Donc, David apprend la mort de son fils. Qu'est-ce qu'il fait?
Alors David se leva de terre et se lava, soignit, changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Donc, puis il va retourner chez lui, puis il va demander qu'on lui serve à manger, puis il reprend d'une certaine façon une vie normale. Donc, il va aller dans la maison de l'Éternel. Il reconnaît, il arrive de quoi cet enfant-là mort, qui est dans l'œil, puis qu'est-ce qu'il fait? Il va à la présence de l'Éternel, il va adorer l'Éternel. C'est quand même intéressant de voir la réaction de David ici. Un commentaire que j'avais trouvé intéressant que je mets devant vous. Le jeûne et l'explication sur l'attitude convenable pour David devant Dieu, avant qu'il en soit mort. La maladie grave de son fils l'amène à mesurer les conséquences de son péché. Oh, si Dieu pouvait faire grâce et laisser l'enfant vivre. L'Éternel avait pardonné, mais la discipline doit s'exercer. David suivit ces choses-là. Cependant, l'enfant mort et l'attitude de David changent complètement. Il accepte pleinement la volonté de Dieu. Privé d'un fils, il connaît la douceur et la communion avec celui qui le châtiait pour son bien. Son cœur est ouvert devant lui. C'est intéressant de voir ça. Cette épreuve-là, ces conséquences-là qu'il subit, ça va le rapprocher de l'Éternel. C'est là, David se rapproche de l'Éternel à travers cette situation qu'il va vivre. C'est quand même une grande grâce que Dieu lui fait à ce moment-là déjà. Il va mentionner « J'irai vers lui ». C'est pas lui qu'on venait vers moi quand du fils, mais je vais aller vers lui. C'est un texte qui est souvent utilisé, qui donne espoir pour des enfants qui vont mourir dans leur jeune âge, qui vont certains vont dire qu'est-ce qui arrive de ces enfants-là. Ben, David a l'espoir qu'il va aller vers lui, il a l'espoir que ces enfants-là et Dieu va leur faire grâce. Puis nous, de la même façon, on peut avoir ce même espoir. C'est quoi qu'on pourrait aller plus dans les détails, mais le temps nous manque. Un homme, cinquième point, un homme retrouve la grâce. Donc, David a subi un grand jugement, subi un deuil, il a perdu son fils à cause des conséquences de son péché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Le verset 24, ça dit « David consola Bathsheba, sa femme. » J'arrête ici. Est-ce que vous remarquez quelque chose de différent dans cette phrase-là avec le reste du chapitre? Comment que Bathsheba était rappelée auparavant dans le chapitre? Comment qu'on l'a nommé? C'était la femme d'Uri. C'est le seul moment où il y a un changement qui fait à ce moment-là. David a subi des conséquences que toutes les fois avant, c'était appelé la femme d'Uri le Hessien. La femme d'Uri le Hessien. Tu as pris la femme. Puis ici, c'est Bathsheba, sa femme. On voit vraiment qu'il y a une transition. David a subi les conséquences, il a subi une discipline pour ce qu'il a fait. Ici, c'est mentionné, Dieu fait grâce. Dieu, il honore un peu le mariage entre David et Bathsheba. Ils vont aller, ils vont avoir un fils ensemble, puis ce fils-là, il est aimé de l'Éternel. Puis quand ça veut dire aimer l'Éternel, c'est pas que l'Éternel l'aime plus que les autres, c'est pas nécessairement ça l'idée, c'est que Dieu a un plan pour ce fils-là. Dieu décide d'utiliser ce fils-là qui est Salomon, qui est aimé l'Éternel. C'est ça que le nom donné par Jedidja, c'est ça que ça veut dire, aimer l'Éternel. Donc, David a un plan pour ce fils-là. Ce plan-là, c'est le plan de, on l'a vu dans 2 Samuel 7, 12 à 13, quand tes jours seront accomplis, tu seras couché auprès avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Donc, c'est Salomon qui va construire le temple. Puis, Dieu, il aurait pu choisir, le titre David avait d'autres fils. Il aurait pu choisir un autre fils pour ça, mais ça, c'était pas la relation la plus positive. Là, Dieu choisit de faire grâce, il choisit d'utiliser Bathsheba et David, puis c'est l'enfant qui vient de ce couple-là, qui n'avait pas parti de la bonne façon, on s'entend. Dieu décide à faire grâce et à Bathsheba et à David, puis leur donner un fils, ce fils-là. Et il va être Salomon, c'est de sa postérité. C'est lui qui va construire le temple, puis c'est de sa postérité à lui qui va venir le Messie. C'est intéressant la grâce de Dieu qu'il fait à ce moment-là. Puis là, on n'aura pas le temps d'aller plus trop loin, mais après ça, Joab qui assiégeait Rabat, des fils d'Amon. Pendant tout le chapitre 10, le chapitre 11, le chapitre 12, il y avait une guerre entre Israël et les fils d'Amon. Une guerre qui dure depuis quelques années déjà. Puis à partir de ce moment-là, il y a une victoire. Joab, qui est le chef de l'armée, s'entend la ville. David va rassembler tout Israël pour aller prendre la gloire d'avoir pris la ville. Il va se rendre maître de la ville. Il va avoir un très grand bouton à ce moment-là qui est mentionné. Donc, pourtant, David a fait des choses terribles, mais Dieu recommence à lui bénir. La relation avec David et les amis, Dieu recommence à lui donner, même si voir des conséquences sur sa maison. Dieu continue à lui faire grâce. Dieu ne l'a pas oublié, il continue, il a recommencé à lui faire grâce. C'est intéressant de voir un peu David, comment il était, puis comment à travers le jugement et la punition que Dieu lui fait, il va être restauré, puis après ça, la relation avec Dieu est renouvelée. Intéressant. Quelques applications pour nous en 2025 qu'on peut tirer. Premièrement, l'homme, en général, n'atteint pas ses propres standards. David, il y avait des standards élevés, mais il a entendu l'histoire de l'homme qui avait pris la revue de l'autre homme. Il y avait des standards élevés, puis clairement, il échouait à ces standards-là. Puis c'est vrai pour chacun d'entre nous. Je suis meilleur pour pointer les erreurs de mes enfants que les propres erreurs. Évidemment, je suis meilleur pour me dire que je ne devrais pas te fâcher, mais c'est beaucoup plus facile de pointer les erreurs des autres que nos propres erreurs. C.S. Lewis, dans un de ses livres, il mentionne, en premier lieu, il mentionne ça, puis je trouve ça intéressant. En premier lieu, les êtres humains par toute la Terre ont cette curieuse idée d'un code de conduite préétabli qu'ils ne peuvent ignorer. De la conscience en bon français. Donc, tout le monde a en eux, tous les êtres humains, tous les hommes ont en eux un code de conduite préétabli, une conscience qui n'a pas vécu. Tout le monde a une conscience. Il n'est pas possible de dire, j'ai pas de conscience. Tout le monde a une conscience. Tous les êtres humains. Deuxièmement, ils n'agissent pas en fonction de ce code. Tout le monde a des standards, tout le monde a une conscience, mais tout le monde ne respecte pas sa propre conscience. À un moment donné, tout le monde désobéit à sa propre conscience, à ses propres standards. Connaissent la loi naturelle et la transgresse. Donc, tous les hommes, c'est la réalité, c'est la conséquence de la nature pécheresse dans le cœur. On a une conscience, mais on n'arrive pas à atteindre notre propre conscience. Puis, si on n'arrive pas à atteindre notre propre conscience, imaginez ce que c'est quand on parle des standards de Dieu. Si on n'atteint pas nos propres standards, imaginez quand on parle des standards de Dieu. L'homme n'atteint pas du tout les standards de Dieu. David n'a pas atteint les standards de Dieu. Moi, je n'atteins pas les standards de Dieu. Personne n'atteint, c'est dit dans Isaïe que notre justice est comme un vêtement souillé. Notre justice, on est loin, loin, loin d'atteindre les standards de Dieu. On est des pécheurs, on est coupables si on se fie à nos propres capacités, nos propres standards. Puis le péché, ça c'est intéressant, c'est aussi quelque chose que j'aimerais que vous vous souveniez, c'est quoi le péché? L'homme méprise Dieu par son péché. Donc, quand je commets un péché, il y a un mépris de ce que Dieu veut. C'est comme si je sais ce que Dieu veut et que je ne le fais pas. Celui qui veut faire le bien ne le fait pas, commet un péché. C'est un mépris. Je suis convaincu que tout le monde dit ah, j'aime le Seigneur, j'aime Dieu, j'aime l'Éternel, je veux marcher pour lui. Puis quand on commet des péchés, ben, souvenez-vous, c'est comme si vous méprisez. Faire mal, nous montrer qu'il n'y a pas de péché. C'est mauvais, c'est pas beau pour nous, ça va éliminer. Dans Exode 5, Pharaon méprisait l'Éternel. Ça dit Exode 5, 2, le Pharaon répondit quand Moïse, le roi l'Éternel, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant l'Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point à l'Israël. Donc, le Pharaon méprise l'Éternel. Puis on regarde ça, puis le Pharaon qui a été puni, puis clairement, c'est terrible ce qu'il a fait. Mais nous, on connaît l'Éternel. On connaît l'Éternel. Si on connaît Dieu, on connaît le Seigneur, et on pêche. C'est un grand défi. On dit, je t'aime le Seigneur, mais je connais des péchés. Puis évidemment, ça devrait nous faire mal, ça devrait nous montrer à quel point le péché, c'est grave. L'homme doit reconnaître son péché, c'est évidemment vrai. Celui qui cache avec ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les délaisse. On doit reconnaître le péché avec un cœur repentant. Même en tant qu'enfant de Dieu, on doit reconnaître le péché avec un cœur repentant pour obtenir le miséricorde et rétablir la relation de David, briser sa relation avec Dieu et de la rétablir encore en reconnaissant. comme Pape peut retrouver la grâce, David, il a retrouvé la grâce. Nous, si on se repent devant Dieu, si quelqu'un est pécheur, il se convertit, évidemment, il trouve la grâce. Nous, quand on est en devenu enfant de Dieu, on a un salut qui est assuré, qu'on ne le perd pas. Mais si on commet des péchés, malheureusement, si on désobéit à Dieu, on peut aller vers lui et retrouver, avoir accès à cette grâce-là. Quelqu'un qui arrive à la maison. Donc, en terminant, je veux mentionner qu'il faut avoir une attitude de regarder David de haut, de dire moi, je David a fait des erreurs, tu sais, c'est d'avoir une humilité, de ne pas se penser fort, de ne pas se penser bon, mais d'avoir une attitude humble devant Dieu. Puis de reconnaître qu'on a besoin de Dieu pour marcher avec lui selon ce qu'il veut. On va terminer dans le bon pied. Notre Dieu, c'est avec beaucoup d'humilité qu'on regarde ce que David a fait. Il a commis des grands péchés, Seigneur, qui pourtant il connaissait, qui était aimé. Seigneur, ça doit nous servir d'avertissement. Seigneur, aide-nous à comprendre à quel point le péché, ça te déplaît, à quel point le péché, tu n'en veux pas. Et Seigneur, aide-nous à avoir une sensibilité qu'on te méprise quand on commet des péchés, Seigneur. C'est évidemment pas ça ce qu'on veut faire. Donne-nous à agir. Merci, Seigneur, que tu. La grâce est accessible, le pardon est accessible, même si en tant qu'enfant de Dieu, on s'en arrive de tes plaies, qui aide-nous à toujours chercher à renouveler cette relation-là avec toi. Seigneur, si quelqu'un ne te connaît pas ici, Seigneur, ma prière, c'est qu'il puisse connaître ta grâce, qu'il puisse se convertir et marcher avec toi.